Bonjour Eric et bonjour à tous. La piste terroriste privilégiée dans l'agression au couteau à la préfecture de police de Paris qui a fait 4 morts. L'auteur de cette tuerie abattue sur place serait en effet radicalisé ces dernières années. 3 adolescents placés en garde à vue après la mort hier matin d'un lycéen à l'entrée d'un stade des Lilas en Seine-Saint-Denis. Un lycéen de 15 ans poignardé alors qu'il tentait de s'interposer entre deux bandes bien décidées à en découdre. 65 morts et plus de 1600 blessés, c'est le dernier bilan des affrontements entre policiers et manifestants en Irak. Des manifestants qui dénoncent la corruption et le manque d'emploi dans le pays. La Corrèze s'apprête à son tour à rendre hommage aujourd'hui à l'élu du pays Jacques Chirac, décédé il y a 8 jours de cela à l'âge de 86 ans. À suivre, le journal des sports présenté par Guillaume Batin et des Français qui souhaitent la victoire de l'Angleterre face à l'Argentine en Coupe du Monde de rugby, histoire de s'assurer une qualification. Match à 10h, heure française, ce matin. Et puis à 8h20, l'immigration au cœur de l'entretien que vous aurez en compagnie de votre invité, Eric Delvaux.
Oui, le démographe et sociologue François Errant, professeur au Collège de France, à propos du débat sur l'immigration qui s'ouvrira lundi à l'Assemblée nationale.
France Inter. Mais tout d'abord, cette galère pour des centaines d'usagers de la SNCF bloqués hier après-midi, hier soir et même cette nuit pour certains d'entre eux à Marseille, Toulon et Nice. Raison de cette paralysie qui a duré plus de 8 heures, une fuite de gaz à La Ciotat près de la ligne ferroviaire. Illustration de cette galère avec Hélène, bloquée hier soir à Marseille, jointe au téléphone par Julien Pasqualini.
On est arrivé vers 20h30, 20h45 à peu près à Marseille. On nous a dit que vers 21h30, on aurait des nouvelles pour savoir si on part. Si on restait, et vers 22h, ils nous ont dit que le train ne bougerait plus jusqu'à demain matin. Donc qu'on pouvait dormir dans le train, que la police allait surveiller, et qu'ils allaient nous donner des bouteilles d'eau, parce que c'est un Ouigo, donc pas de wagon-bar, rien pour manger, ni pour boire. Très en colère, hein, évidemment, parce que tout le monde n'a pas des proches qui peuvent venir les chercher. Donc les gens cherchaient à rentrer en taxi, qui était beaucoup trop cher pour rentrer. Il y en a qui allaient jusqu'à Nice. Donc il y a un monsieur qui a vu qu'il avait pour 160€ de taxi, de Uber, c'était pas possible. Et ouais, les gens étaient énervés, il y avait des enfants, pas possible quoi. De rester dormir là dans le train, donc il y en a qui sont allés chercher des hôtels, tout le monde s'est débrouillé comme il pouvait quoi.
La SNCF a finalement pu affréter des bus en fin de soirée, ainsi qu'une rame TGV à Marseille, permettant à certains voyageurs d'éviter la nuit en gare. La SNCF qui s'engage également à rembourser 100% des billets des voyageurs bloqués. Et pour d'autres raisons, sachez que le transport des trains et des métros est totalement interrompu depuis ce matin à Hong Kong. Il s'agit cette fois de la conséquence d'affrontements entre policiers et manifestants pro-démocratie. Des affrontements qui ont lieu toute cette nuit et au cours desquels des stations de métro ont été vandalisées.
Autre théâtre de manifestations et d'affrontements en Irak.
Oui, l'Irak où les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre se poursuivent. Le dernier bilan obtenu hier soir au 4e jour de ce mouvement de contestation auprès de sources médicales. Les services de sécurité fait état de 65 morts et de plus de 1600 blessés, dont 200 rien que pour la capitale Bagdad. Le point sur place avec notre correspondante Lucille Wasserman.
4 journées de mobilisation maintenant en Irak et les affrontements sont toujours aussi violents dans la capitale irakienne et dans le sud du pays. Depuis ce vendredi, des snipers ont fait irruption dans les rues de Bagdad, sans qu'on ne sache s'il s'agit de forces de sécurité, de protestataires ou de groupes armés. Ces snipers visent à bout portant les manifestants et ont fait des victimes ce vendredi, de quoi particulièrement inquiéter les protestataires qui toutefois ne décolèrent pas et continuent à se mobiliser. L'intervention du premier ministre irakien dans la nuit de jeudi à vendredi n'a pas répondu à leur demande et beaucoup de ceux qui attendaient le prêche de l'ayatollah Ali Sistani, très respecté dans le pays, ont été quant à eux déçus qu'ils ne dénoncent pas les violences et ne critiquent pas plus sévèrement le gouvernement irakien. Fait rare en Irak, Ali Sistani faisait donc partie des figures critiquées dans les rangs des manifestants hier. Un homme politique s'est lui démarqué dans ses demandes. Il s'agit de Muqtada al-Sadr, le grand vainqueur des élections législatives de 2018, qui a appelé à la démission du gouvernement et à des élections anticipées. Bagdad, Lucille Wasserman, France Inter.
Des manifestants qui dénoncent la corruption en Irak et le manque d'emploi dans tout le pays.
En France, le parquet national antiterroriste s'est saisi donc hier de l'enquête sur l'agression au couteau à la préfecture de police de Paris.
Oui, du coup, une agression qui prend aujourd'hui une envergure terroriste. Agression qui a fait, rappelons-le, 4 morts jeudi dernier, plus celle de l'auteur abattu, cet agent administratif dont la radicalisation découverte par les enquêteurs lors de l'analyse de son téléphone portable notamment, ne semble faire aucun doute. La radicalisation d'un agent au sein d'un service de renseignement d'élite qui inquiète les services de police. Ainsi, le secrétaire général du syndicat l'unité SGP Police FO. Yves Lefebvre estime que l'on a sous-évalué la menace. Il exige des réponses.
On s'aperçoit qu'on a eu une faille dans le système, une faille immense, une faille criminelle, terroriste. Et aujourd'hui, la question à se poser, c'est simplement comment cela a-t-il pu arriver? Alors effectivement, on va attendre de voir un peu plus loin dans l'enquête, on va attendre de laisser faire le parquet, les services spécialisés en la matière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça crée, qui plus est, un climat encore plus anxiogène, parce qu'on savait que la menace, malheureusement, depuis 2015, hein, depuis Charlie, était particulièrement palpable. Mais à l'intérieur, on pensait pas, même s'il y avait quelques cas de radicalisation signalés, on ne pensait pas que ça puisse nous arriver. Manifestement, il y a eu des loupés, mais des loupés qui sont peut-être compréhensibles au demeurant, mais il faut savoir pourquoi ça s'est passé pour pas que ça puisse se renouveler.
Le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO, joint au téléphone par nos confrères de France Info. L'épouse de l'agresseur qui est en garde à vue depuis jeudi indique aux policiers que son mari avait entendu des voix dans la nuit de mercredi à jeudi. Garde à vue également pour trois adolescents dans le cadre de l'agression dont a été victime hier matin un jeune de 15 ans en Seine-Saint-Denis, un lycéen poignardé à l'entrée d'un stade où se tenaient des cours d'éducation physique au Lila, près de Paris.
La Corrèze s'apprête ce week-end à rendre un dernier hommage à l'élu du pays, Jacques Chirac.
Hommage qui prendra la forme d'une journée du souvenir et de l'amitié, organisée conjointement par le conseil départemental et la famille de l'ancien président. Journée qui va commencer dès 9h ce matin par un temps de recueillement au cimetière de Sainte-Féréole, suivi d'un rendez-vous à midi au musée du président à Saran. Saran, où la famille sera présente, bien entendu, ainsi que plusieurs personnalités, dont François Hollande. Bien qu'adversaires sur le plan politique, les deux hommes avaient en effet de l'estime l'un pour l'autre, Alain Ginesté.
C'était en juin 2011. Les deux hommes sont au musée de Saran et Jacques Chirac lâche cette petite phrase restée célèbre.
Je peux dire que je voterai Hollande.
Humour corrézien, dira-t-on à l'époque. Mais en fait, les deux hommes s'apprécient réellement, bien avant d'ailleurs que François Hollande soit chef de l'État. Deux ans plus tôt, dans ses mémoires, Jacques Chirac parle de lui comme d'un véritable homme d'État. Dans la presse, il dit du premier secrétaire du PS que c'est un homme capable et ambitieux parce que capable. François Hollande, à l'époque, en est presque gêné.
Je vais pas commenter des propos agréable de Jacques Chirac sur un côté immodeste. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai toujours eu du respect pour la personne et pour l'homme politique et ses valeurs. Bon, on est de gauche, on est de droite, mais on a un patrimoine commun.
Devenu président, François Hollande cultivera ses relations amicales avec Jacques Chirac, lui rendant visite dès le mois de juillet 2012 au château de Bity. Le patrimoine commun entre les deux hommes n'était pas que républicain, il était aussi corrézien.
Alain Ginesté de France Bleu Limousin. Nous allons refermer ce journal avec du cirque, enfin, du cirque nouvelle formule. Face aux critiques grandissantes sur l'utilisation de fauves et autres éléphants, André-Joseph Bouglione a en effet décidé de lancer un éco-cirque, sans animaux donc. Une décision pas évidente pour ce descendant d'une longue lignée de dresseurs et de dompteurs, Julie Pietri.
Quand il parle de ses anciens animaux, tigres et lions, André-Joseph Bouglione a les larmes aux yeux. Bien sûr que j'ai d'abord été en manque, dit-il.
Je le suis encore, mais il faut faire avec. C'est un temps qui est passé. Moi, j'ai tourné la page définitivement, et tant mieux. Depuis la naissance, on nous a expliqué, le vrai cirque, c'est avec des animaux. Depuis toujours, c'est comme ça, comme ton père, comme ton grand-père, etc., ton arrière-grand-père. Moi, je suis quand même la sixième génération de dompteurs. En réalité, on est des éleveurs et des exploitants d'animaux. Donc, ça a été une vraie remise en question, mais il fallait le faire.
Dans son cirque 100% humain, André-Joseph Bouglione, qui s'est déjà attiré les foudres d'une partie de la profession par ses prises de position, fait le pari des artistes. Plus de cris de bêtes, donc, mais des jongleurs, clowns et aussi des hologrammes.
On va valoriser les artistes, leur charisme, par des hologrammes. C'est une technologie qui nous permet aujourd'hui, dans un spectacle vivant, d'aller au fond des mers, d'aller au sommet d'une montagne ou dans une rue de Paris. C'est extraordinaire.
En marge des spectacles, l'éco-cirque promet de sensibiliser à la préservation des espèces en danger qui ont, je cite, « tant été applaudies dans les spectacles ». Par ce changement de trajectoire, André-Joseph Bouglione espère bien sûr séduire un nouveau public.
Julie Pietri, c'est la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie de notre monsieur loyal à nous, Éric Delvaux.
Arrêtez votre cirque. C'était le journal de Serge Martin.